affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Michel Pastoureau, sur ses livres penchés, traquait d'un oiseau les images. C'est le corbeau qui l'aurait embauché pour un vol à travers les âges. Et bonjour, chers amis, vous l'avez compris, nous sommes en compagnie du grand spécialiste de la symbolique des animaux. Il vient de doter son bestiaire d'un nouveau spécimen, le corbeau. Ce volatile au noir plumage était vénéré par les peuples d'Europe du Nord. Il a perdu de son prestige avec le christianisme pour devenir une bête impure et diabolique. Cette histoire se poursuit sur deux millénaires jusqu'aux oiseaux terrifiants d'Alfred Hitchcock. Mais aujourd'hui, le corbeau pourrait bien prendre sa revanche grâce à son intelligence hors du commun. Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Alors Michel Pastoureau, vous êtes médiéviste et correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Vous venez de publier aux éditions du Seuil une histoire culturelle du corbeau. Mais en réalité, cet animal vous préoccupe depuis des décennies. Pourquoi ?
Oui, parce que je suis historien des animaux, entre autres choses, et j'ai consacré ma thèse d'École des Chartes, il y a plus d'un demi-siècle maintenant, au bestiaire héraldique médiéval, ce qui m'a conduit à m'intéresser à ce qui se passait avant l'apparition des armoiries au XIIe siècle, c'est-à-dire à l'emblématique du Haut Moyen-Âge. Et j'avais constaté que chez les Germains, chez les Scandinaves, chez les Celtes et chez les Slaves, il y avait des oiseaux qui étaient plus admirés, voire vénérés que d'autres, et le corbeau en faisait partie. Avec l'ours et le loup, c'est probablement la triade d'animaux qui joue le plus grand rôle chez ces peuples du Nord et du Nord-Ouest.
Et d'ailleurs, contrairement peut-être au loup ou à l'ours, il y a assez peu de publications sur le corbeau.
Voilà, oui, donc c'est un animal qui m'accompagne depuis très longtemps. Et contrairement à mes livres précédents consacrés au loup et au taureau dans la même collection, j'ai eu des prédécesseurs. Sur le loup, la bibliographie est abondante, elle est souvent de qualité. J'ai ajouté mon grain de sel pour la période médiévale, bien sûr, mais pour des périodes plus récentes, j'ai un peu exploité mes collègues spécialistes de l'époque moderne, voire contemporaine, les folkloristes aussi. Sur l'ours, il y a moins de travaux d'historiens, il n'y en a pas eu beaucoup, même il y avait des travaux d'ethnologues. J'ai beaucoup travaillé sur l'ours, j'ai consacré trois années de mes séminaires à l'école pratique des hautes études à cet animal. J'espère que je n'ai pas ennuyé mes auditeurs. C'était l'ancien roi des animaux dans les sociétés européennes, donc il fallait être quand même attentif aux documents qui sont très bavards sur l'ours. Donc je lui avais régler son compte, en quelque sorte, en 2006, si je me souviens bien, avec un livre qui s'appelait « L'ours, histoire d'un roi déchu ». Et dans cette collection plus récente, consacrée à l'histoire culturelle des animaux, je souhaitais depuis le début me pencher sur le cas du corbeau. C'est ce que j'ai fait donc dans ce troisième volume. Et là, mes recherches sont originales et je m'appuie sur mes propres travaux conduits sur presque un demi-siècle d'histoire.
Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, cette histoire culturelle du corbeau, en commençant par parler des sociétés nordiques et peut-être d'abord des sociétés scandinaves qui accordent une place de choix au corbeau. On en retrouve même dans les tombes de certains personnages. Quel pouvoir accorde-t-on dans cette société-là au corbeau ?
Le corbeau est à la fois l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Il est le messager des dieux, parfois le conseiller des dieux, comme dans la mythologie nordique, le principal dieu du panthéon septentrional, Odin, a pour attributs principaux deux corbeaux perchés sur ses épaules qui parcourent le monde et lui rapportent tout ce qu'ils ont vu ou entendu. Quelquefois, il est le créateur du monde. C'est le cas en Europe, mais plus encore, soit dans la Sibérie extrême-orientale, soit chez certains peuples de la côte nord du Pacifique. C'est un oiseau tutélaire, c'est un oiseau pris en bonne part, admiré. Le matériel trouvé dans les tombes, des restes osseux de corbeaux, nous montre que dans cette antiquité païenne, et jusqu'à des dates avancées, jusque vers l'an 1000 même parfois, les corbeaux, le grand corbeau, était un oiseau beaucoup plus grand et plus gros et plus lourd que celui que nous connaissons. C'est pour ça que, quelquefois, on est étonné qu'il soit autant admiré. Mais en fait, le corbeau fait peur à tous les autres oiseaux dans l'Antiquité et pendant le Haut Moyen-Âge parce qu'il a une envergure qui peut atteindre 2,50 m, voire davantage, et un poids qui dépasse les 3,5 kg, 4 kg parfois. Donc c'est un très gros oiseau. Nos corneilles, évidemment, en sont très très éloignées. Et il est probablement admiré pour sa force. Il n'a aucun prédateur, mais également pour sa réputation de sagacité. C'est un animal qui passe pour intelligent, doté d'une mémoire extrêmement longue et pour essayer de limiter, voire de s'emparer de cette force supérieure.
Alors c'est un attribut du dieu Odin, vous l'avez vu, et il accompagne également les guerriers et les marins pour leur donner du courage, de la force.
Oui, et ceux-ci s'emparent des parties de corbeaux morts dont ils font des amulettes ou des talismans, des fragments de bec, des fragments de griffes, des ossements, des plumes qu'ils portent ici ou là sur leur corps, ou bien ils font dessiner sur une partie de leur armement des figures de corbeaux, ou bien ils prennent un nom qui imite le nom du corbeau. Il y a différentes racines chez les peuples du Nord. Plus effroyable encore aux yeux de l'Église chrétienne, pour des époques plus récentes, certains guerriers, avant de partir au combat, boivent du sang de corbeau, mangent de la chair de corbeau, nourriture épouvantable bien sûr, pour le clergé du Haut Moyen-Âge, afin d'être protégés de cet animal qui passe en plus pour avoir des vertus psychopompes. Il accompagne les guerriers morts au combat vers leur dernière demeure et vers l'autre monde.
Certains récits parlent même de combattants qui imitent le cri du corbeau, notamment chez les Celtes, par exemple, quand ils partent au combat.
Oui, la voix du corbeau a toujours fasciné les humains. On a observé attentivement cette voix, distinguait un certain nombre d'inflexions. On s'est aperçu que le corbeau imitait parfaitement les cris ou la voix d'autres animaux, d'autres oiseaux, parfois des humains. On en a tiré un certain nombre de présages, nous y reviendrons sans doute. Mais pour un guerrier qui se place sous la protection du corbeau ou qui cherche à imiter le corbeau, crier comme le corbeau d'une voix un peu rauque, bien sûr, c'est devenir pleinement corbeau.
Alors vous dites qu'au nord de l'Europe, le corbeau occupe un peu la place qui est celle de l'aigle plus au sud, et on pense à l'Empire romain, et pourtant les Romains qui ont comme emblème l'aigle accordent aussi une place au corbeau, ne le méprisent pas du tout. C'est l'oiseau des augures par excellence.
Oui, en Grèce et à Rome, le corbeau est également admiré, passe pour un oiseau intelligent, pour un oiseau sage. Il a aussi des défauts. Chez certains auteurs, on parle de sa vanité, on parle de sa voracité, on parle parfois de sa cruauté, mais enfin, il est plus souvent pris en bonne part qu'en mauvaise. Et surtout, il a à voir avec la divination. Donc, on observe comment il vole, dans quelle direction, dans quel périmètre. On observe comment il se comporte vis-à-vis de la nourriture. C'est un classique dans la divination chez les Romains notamment. Et puis, on essaye de distinguer ce que l'on peut reconnaître comme présage dans les cris qu'il pousse. Pline parle d'une soixantaine de cris différents chez le corbeau. Certains auteurs vont jusqu'au double presque. Donc il a beaucoup à voir avec la divination. C'est l'oiseau qui peut connaître l'avenir grâce à sa grande intelligence, grâce à son énorme mémoire. Et bien sûr, on lui fait confiance pour ce faire.
Vous dites que pour les Romains, le corbeau, c'est d'abord une voix.
Oui, c'est une voix qu'il faut observer attentivement, essayer de distinguer les différentes inflexions que le corbeau met dans cette voix et en tirer un certain nombre d'instructions pour l'avenir. Il y a une forme de divination par la voix. Pline précise même que parmi tous les animaux utilisés par les augures, les corbeaux sont les seuls qui semblent comprendre les présages qu'ils transmettent aux humains. Plus loin, il souligne même que c'est probablement que le corbeau est probablement le plus intelligent de tous les animaux. Nous verrons que cette idée sera reprise à l'époque contemporaine.
Nous avons parlé du ramage, mais il y a aussi le plumage du corbeau et cette fameuse couleur noire qui n'est pas perçue d'une façon négative par les Romains. Le noir des plumes du corbeau est brillant et particulièrement intéressant.
Oui, à toute époque, chaque couleur est ambivalente. Du point de vue symbolique, elle a ses bons et ses mauvais aspects. Le noir n'échappe pas à la règle. Il y a un bon noir et il y a un mauvais noir. Et le latin classique et le latin médiéval également usent de deux adjectifs. Ater, c'est soit le mauvais noir, soit le noir neutre. Là, c'est laisser quelques traces en français, par exemple atroce, se rattache étymologiquement à cet adjectif ater. Et puis niger, c'est le bon noir, c'est le beau noir, le noir brillant. Notre mot noir en est issu. Donc, selon que l'on utilise ater ou que l'on utilise niger, bien sûr, on a affaire au côté négatif ou positif de la couleur. Et pour le corbeau, c'est plus souvent niger qui est sollicité que ater.
Alors, nous sommes dans cette Europe païenne avec tout ce substrat culturel plutôt positif, même s'il faut y apporter des nuances sur le corbeau que vous nous avez raconté. Et puis arrive le christianisme. Et là, les choses se compliquent pour le corbeau. Vous voyez notamment dans les textes bibliques des références qui vont changer notre regard sur le corbeau, et en particulier un texte qui ressort d'une façon plus singulière, c'est celui de l'Arche de Noé, où dans ce récit, le corbeau occupe une place qui n'est pas à son avantage.
Oui, les pères de l'Église partent en guerre contre les cultes païens envers des animaux par trop vénérés. Le corbeau, naturellement, est du nombre. Et pour conduire cette guerre, il s'appuie sur les Écritures. Et dans les Écritures, le corbeau est plutôt maltraité. C'est le deuxième animal nommé par la Bible, après le serpent. Et tous les deux sont des créatures tout à fait négatives. Le corbeau apparaît dès la Genèse, dans l'épisode de l'Arche de Noé, et il est pris en mauvaise part. Noé cherche à savoir si les eaux du déluge se sont retirées. Il lâche un corbeau qui sort de l'Arche, qui va voir ce qu'il en est, et au lieu de rapporter la bonne nouvelle, oui, les eaux du déluge se sont retirées, il préfère s'attarder à manger des cadavres, ce qui en fait un oiseau impie, ce qui oblige Noé à lâcher la colombe à sa place, et ce qui construit symboliquement un couple oiseau noir mauvais, oiseau blanc qui rapporte la bonne nouvelle, avec en plus un rameau d'olivier dans le bec. La colombe, c'est un oiseau quasiment sanctifié par les valeurs chrétiennes. Bref, ça commence très mal pour le corbeau dans la Bible. On est quand même presque au début de la Genèse. Et les pères de l'Église ont beau jeu, naturellement, de s'appuyer sur ce passage, qui est très court, pour complètement dévaluer la symbolique de cet animal qui a été extrêmement valorisé par les sociétés antiques.
parmi les pères de l'Église, il y en a un qui est un des plus farouches opposants du corbeau, c'est saint Augustin. Que lui reproche-t-il ?
Augustin, d'une manière générale, se méfie des animaux. Je pense même qu'à titre personnel, il avait une certaine peur ou une certaine aversion pour les animaux. C'est dommage parce qu'Augustin, c'est quand même un des pères de la symbolique médiévale. Et alors, pour le monde animal, il est de ceux qui pensent qu'il ne faut absolument pas confondre l'homme et l'animal. L'homme a été créé à l'égal de Dieu, l'animal est une créature imparfaite, impure, soumise à l'être humain. D'autres pères, d'autres théologiens pensent différemment, pensent notamment qu'il y a un courant qui fait une sorte d'unité des êtres vivants et qui rapproche davantage l'homme et l'animal, mais Augustin n'est pas de cette opinion-là. Et alors, il est particulièrement sévère contre l'ours d'un côté et contre le corbeau de l'autre, probablement parce que c'était les deux vedettes dans le panthéon païen des attributs animaux. Et donc il part en guerre contre le corbeau comme il est parti en guerre contre l'ours. Et dans la voix du corbeau, il entend l'adverbe latin « crasse, crasse ». Là où nous entendons « croa, croa », nous. Et « crasse » en latin signifie « demain ». Donc, il entend « demain, demain » et il interprète cet adverbe comme le mauvais chrétien qui remet au lendemain sa confession. Notre terme moderne « procrastination » tient là son étymologie. On reporte à demain ce qu'on n'a pas envie de faire le jour même. Et en général, c'est une mauvaise idée. On est puni. Et alors, le corbeau, par sa voix, pour Augustin, naturellement, c'est une créature du démon, c'est un oiseau impie, c'est la tribu des méchants, etc., etc. Il a beau jeu de s'appuyer par ailleurs sur son plumage noir, sur son instinct charognard, etc., etc.
D'autres se montrent plus compréhensifs. Il y a une exception, c'est celle de Rabban Mor qui lui-même appartient à ce milieu germanique et qui, vous le dites, hein, jusque dans son nom, porte cette vieille culture, peut-être de vénération du corbeau, en tout cas d'avoir un aspect positif du corbeau.
Oui, Rabban Mor, c'est une exception dans le discours des pères de l'Église et des successeurs des pères vis-à-vis du corbeau. Lui voit un oiseau positif. Et il ne s'en explique pas comme je vais l'expliquer, mais on sent bien qu'il y a un problème personnel derrière cette opinion qui est un unicum en quelque sorte dans la patristique. Il s'appelle Rabban, il est surnommé Maurus, Rabbanus Maurus, Rabban Mor. Archevêque de Mayence, abbé de Fulda, auteur d'une immense encyclopédie, le De Universo. C'est là où se trouve ce passage sur le corbeau. Rabban, dans les langues germaniques, Rabbanus latinisé, ça signifie corbeau. Et Maurus, ça signifie noir. Donc c'est le surnom. Le nom et le surnom de ce personnage, qui est un grand prélat, donc s'appelant Corbeau, il a du mal à dire du mal du corbeau. Et pour l'historien, c'est assez réjouissant de tomber sur un document de cette nature. Ça n'est pas très fréquent. On voit que le cas individuel l'a emporté sur la symbolique générale. Je fais un peu un écart, mais pour souligner un autre cas qui m'a beaucoup réjoui du même genre, qui n'a pas de rapport avec les animaux, mais c'est saint Thomas d'Aquin, quand il passe en revue les péchés capitaux, il arrive à la gourmandise, à la goinfrerie, la goula, et contrairement à tous ses contemporains et à tous les théologiens qui l'ont précédé, il explique que la goula, finalement, c'est peut-être pas un si grave péché que ça. Chacun doit manger à sa faim. Si quelqu'un a très faim, il mange beaucoup, c'est comme ça. Et quand on sait que Thomas d'Aquin était un homme extrêmement corpulent et que tous les contemporains ont souligné combien il aimait manger, je trouve ça assez touchant de voir que, ici encore, le cas personnel de l'immense théologien l'emporte sur la symbolique, la théologie et tout ce qui s'y rattache.
En tout cas, au-delà du cas personnel de Rabban Mor, On comprend que cette culture du corbeau reste très présente malgré la christianisation, à travers les noms, à travers les fêtes, à travers certains rituels pendant des siècles.
Oui, on ne peut pas effacer d'un coup de plume une symbolique qui remonte à la proto-histoire, peut-être même plus en amont. Donc l'Église doit utiliser différentes stratégies pendant le Haut Moyen-Âge pour partir en guerre contre ces animaux par trop vénérés, notamment le corbeau. La première stratégie consiste à tuer le plus grand nombre de corbeaux, comme elle a fait tuer le plus grand nombre d'ours. La deuxième stratégie consiste à le diaboliser. C'est le cas de notre oiseau qui entre de bonne heure dans le bestiaire du diable et des démons avec quelques autres animaux, notamment l'ours et le loup. Et puis la troisième stratégie consiste à lui attribuer un catalogue d'adjectifs péjoratifs qui sera repris par tous les bestiaires du Moyen-Âge central, soulignant combien cet oiseau est malfaisant et condamnable à différents titres. Et puis la quatrième stratégie, qui va nous entraîner un peu plus avant dans la chronologie, consistera à ridiculiser le corbeau. Ce sera le rôle de la fable et du roman de renard.
Alors nous y reviendrons, mais pour approfondir tous ces vices du corbeau, nous pourrions parler d'une légende tenace, c'est celle du corbeau qui abandonne ses enfants à la naissance, une légende qui va vraiment imprégner les mentalités. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce corbeau?
Oui, on la trouve déjà sous la plume de certains auteurs grecs de l'Antiquité, chez Pline et chez certains auteurs romains, et elle est reprise par les encyclopédies et les bestiaires du Moyen-Âge. Elle nous raconte que les corbeaux, père et mère, ne reconnaissent pas leurs petits comme tels tant que leurs plumes ne sont pas bien noires. Or, à la naissance, les corbillons ont des plumes assez claires, non pas blanches, mais gris clair, et puis elles foncent progressivement, ça prend un certain temps. Et alors, doutant que ces oisillons soient leurs enfants, le père et la mère ne les nourrissent pas. Ils attendent que les plumes soient noires pour les nourrir. Et naturellement, les petits en souffrent et soit sont nourris par d'autres oiseaux, soit sont nourris, nous disent les auteurs chrétiens, par la bienveillance du Seigneur qui vient à leur secours, bien qu'il s'agisse de corbeaux. Et quelques auteurs vont plus loin, parcourent la vie des corvidés et nous expliquent que quand le père et la mère sont devenus vieux, les enfants se souviennent combien ils ont été maltraités quand ils étaient des oisillons. Et au lieu de nourrir leurs vieux parents qui ne peuvent plus se procurer de la nourriture, ils les laissent mourir de faim et parfois même les dévorent. Donc c'est vraiment une race d'oiseaux cannibales absolument épouvantable. Je crois que chez les pères et chez leurs successeurs, aucun autre animal n'est aussi dénigré, traité avec autant de malfaisance que ce pauvre oiseau. Il descend très très bas après avoir été vénéré.
Et ce récit des parents corbeaux a laissé une trace dans le vocabulaire allemand.
Oui, encore il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quand une mère travaille au lieu d'élever ses enfants, hein, la société contemporaine fait que de plus en plus de femmes travaillent, et donc elles sont parfois accusées de délaisser leurs enfants, qui sont abandonnés soit aux grands-parents, soit à l'école maternelle, ce qui n'est pas toujours très bien vu dans la société allemande, soit à des tiers, à des crèches, à des nourrices. Ces mères qui travaillent et qui semblent un peu indignes, on les appelle des Rabenmutter, c'est-à-dire des mères corbeaux.
Alors la guerre contre le corbeau est gagnée par l'Église à partir du XIIe siècle, et cette figure du corbeau va évoluer d'une façon assez étonnante dans cette fameuse fable du corbeau et du renard. On va voir le corbeau être considéré comme un animal stupide et ridicule, alors que jusqu'à présent, on avait mis en avant sa profonde intelligence, sa ruse peut-être aussi. Qu'est-ce qui explique un tel retournement ?
Oui, il s'agit moins d'un retournement que d'une mise en valeur d'un texte qui est connu depuis longtemps. Le corbeau et le renard fait partie du plus ancien corpus de fables, celui que nous attribuons à Ésope, c'est-à-dire à un auteur sur lequel nous ne savons rien, censé vivre au 7e siècle avant notre ère. Mais dans le corpus ésopique primitif, bien sûr, il y a cette fable qui est la plus célèbre de toutes les fables européennes. Et le corbeau a le mauvais rôle puisqu'il est dupé par le renard, lui qui est un oiseau rusé, a trouvé plus rusé que lui. Et donc, il semble avoir le mauvais rôle. L'antiquité gréco-romaine ne met pas particulièrement cette fable en valeur. Ça n'est qu'une fable parmi d'autres, même si c'est une des fables qu'apprennent les jeunes écoliers. Mais le Moyen-Âge, lui, la met en valeur, la fait passer même dans certains textes comme le roman de Renard, parce que le corbeau y est trompé en partie par le goupil et ça contribue à dévaloriser l'oiseau. On peut se demander si c'est fait exprès pour dénigrer cet oiseau par trop intelligent chez les peuples païens, ou bien si c'est une sorte de soupape nécessaire, comme dans tout système symbolique, il faut bien que quand un oiseau ou quand un animal est par trop valorisé, il y ait des cas qui fassent exception. Dans l'Antiquité, on trouve des exemples semblables où le système symbolique s'inverse, et c'est le cas ici, cet oiseau très intelligent, dans cette situation-là, ne l'est pas ou trouve plus intelligent que lui. Mais deux auteurs de la fin du Moyen-Âge ont trouvé une explication particulièrement ingénieuse. Étonnés que le corbeau soit trompé par le goupil, souligne qu'en fait, le corbeau, qui est très intelligent, savait très bien que le fromage était empoisonné et donc c'est exprès qu'il l'a lâché. Et c'est le renard qui va subir le poison et pas du tout l'oiseau. Voilà qui est ingénieux.
Vous parlez des bestiaires médiévaux, des encyclopédies, et puis viennent les histoires naturelles qui proposent une approche un peu différente, plus sous l'angle de la connaissance des animaux. En réalité, vous dites qu'elles n'apportent pas grand-chose de nouveau, mais parmi ces textes, l'un d'eux va avoir une grande postérité. C'est celui de Buffon, le célèbre naturaliste, sur le corbeau. Il écrit un texte particulièrement dur. Est-ce que vous pourriez nous le lire et peut-être nous le commenter ?
Oui, alors là, nous sautons quelques siècles quand même, puisqu'on va arriver en plein 18e siècle. Mais on peut dire que l'apparition du livre imprimé et donc la naissance d'une histoire naturelle et surtout d'une ornithologie plus savante par rapport à nos conceptions d'aujourd'hui, par rapport aux aviaires et aux bestiaires du Moyen-Âge, ne change pas grand-chose au discours sur le corbeau. Bien sûr, on l'observe peut-être mieux, mais les hommes et les femmes du Moyen-Âge savaient très bien observer la nature, mais ils n'avaient pas l'idée que l'observation conduisait à la vérité des êtres et des choses. C'était deux domaines tout à fait différents, l'observation d'un côté et la quête de la vérité. Les anciens, les médiévaux, contrairement à nous, distinguent très soigneusement la réalité et la vérité. La réalité, c'est de l'ordre du monde physique. La vérité, c'est de l'ordre métaphysique, et c'est ça qui les intéresse. Alors avec l'humanisme de la Renaissance, l'imprimerie, la naissance de l'histoire naturelle au sens moderne, et surtout de l'ornithologie, qui est en avance sur le reste de la zoologie, on a un discours, en effet, qui nous semble plus proche de celui que nous connaissons, mais ça ne revalorise pas le corbeau pour autant, et quand on arrive à Buffon, au milieu du XVIIIe siècle, dans son immense histoire naturelle et dans la partie consacrée aux oiseaux, il est très très méchant envers le corbeau. Je vais vous lire le passage. « On prétend même qu'il attaque quelquefois les grands animaux avec avantage et que, suppléant à la force qui lui manque par la ruse et par l'agilité, il se cramponne au dos des buffles, les ronge tout vif et en détail, après leur avoir crevé les yeux. Et ce qui rend cette férocité plus odieuse encore, c'est qu'elle est en lui non l'effet de la nécessité, mais d'un appétit marquant, une préférence pour la chair et le sang. Si aux traits sous lesquels nous venons de représenter le corbeau, on ajoute son plumage lugubre, son cri plus lugubre encore, son port ignoble, son regard farouche, tout son corps exhalant l'infection, on ne sera pas surpris que dans presque tout le temps et sous toutes les latitudes, il a été regardé comme un objet de dégoût et d'horreur.
Est-ce qu'on ne peut pas voir là, en plein siècle des Lumières, eh bien justement toute cette pensée médiévale autour du corbeau toujours présente ?
Oui, bien sûr. Buffon, c'est à la fois le réceptacle de traditions parfois très anciennes. Il admire Pline, par exemple. « Mon ami Pline », dit-il à plusieurs reprises. Donc il reprend un certain nombre d'idées. En même temps, il est de son temps. Il croit à la science, il croit au progrès, il croit à la transformation des espèces, ce qui est très, très en avance sur certains de ses contemporains. Mais il ne peut pas se débarrasser d'un certain nombre de préjugés. Et puis surtout, Buffon n'aime pas les animaux qu'il n'arrive pas à classer. Dans son classement à lui, naturellement, qui n'est pas du tout celui de Linné ou d'autres zoologues ou ornithologues. Et alors, le corbeau, il ne sait pas très bien où le mettre. Est-ce que c'est un rapace ou est-ce que ça n'est pas un rapace ? Il hésite et finalement, il le range dans le livre des rapaces, mais en dernier, il termine le livre, le plus petit des rapaces, nous dit-il. Enfin, on sent bien qu'il a plein de préjugés, comme il en a pour d'autres animaux, comme il en a contre le cochon. Il n'arrive pas à classer le cochon non plus parce que il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Il n'aime pas l'ours parce que l'ours ressemble étonnamment à l'être humain, mais n'est pas un être humain, ça l'agace, etc., etc. C'est un texte admirable que l'Histoire naturelle de Buffon. C'est probablement le texte le mieux écrit de toute la prose française. D'ailleurs, les contemporains du XVIIIe siècle l'ont senti. C'était la grande plume du siècle. Le grand phrasier disait ses ennemis, mais à l'heure d'un bilan, force est de reconnaître que personne n'a jamais aussi bien écrit le français que Buffon. Et alors, dans ce chapitre sur les oiseaux, il s'était fait aider par un collaborateur venant de Bourgogne, comme lui, mais il avait trouvé pour le corbeau que le dit collaborateur n'était pas assez méchant, donc il a réécrit le chapitre en ne parsemant d'adjectifs particulièrement négatifs.
Peut-on dire qu'à cette époque-là, le corbeau passe de la catégorie d'animal diabolique à celle d'animal nuisible ?
La notion d'animal nuisible est relativement récente. Nuisible en ce sens qu'il nuit à l'être humain, non pas parce qu'il attaque physiquement l'être humain, mais parce qu'il détruit les récoltes, il pille les réserves, il s'attaque à d'autres animaux utiles à l'être humain. Donc c'est ça le concept d'animal nuisible. Et en ce sens, il émerge en effet dans le courant du XVIIIe siècle et s'impose au XIXe siècle. Ça devient même une appellation officielle. Dans les mairies, on affiche de temps en temps, à partir des années 1830, la liste des animaux nuisibles qui est révisée de temps en temps. Elle s'allonge ou elle se raccourcit. Et le corbeau, bien sûr, en fait partie et va en faire partie pendant très très longtemps. Quand j'étais adolescent, je suis un vieux monsieur, mais quand j'étais adolescent, dans les campagnes bretonnes et dans les campagnes normandes, chez moi, il y avait parfois des primes pour les corbeaux que l'on tuait. C'était presque un sport que de tirer sur les corbeaux et les corneilles, censés manger les grains avant que les plantes sortent de terre. Bref, on l'a regardé d'un très mauvais œil jusqu'à des dates toutes récentes. Ça n'a d'ailleurs peut-être pas complètement changé. Et ça, c'est un héritage qui vient de loin. On a la chance d'avoir, pour l'Ancien Régime, des répertoires de superstitions dans la vie paysanne, en général dressés par des curés, tel ou tel curé pour sa paroisse, puis d'autres curés avec lui pour d'autres paroisses. On finit par dresser des superstitions pour tel ou tel diocèse. Et puis on a fusionné pour l'ensemble de la France, on a fait des dictionnaires de superstitions dans la vie des campagnes, et on s'aperçoit que les trois quarts des superstitions concernent les animaux, et les deux vedettes de ce monde animal qui est redouté ou qui est honni par les paysans sont le loup et le corbeau.
Et alors, est-ce qu'on associe pour autant déjà le corbeau à l'idée de mort? Parce qu'à vous lire, on comprend que cette association est finalement très récente. Elle date du 19e siècle.
L'association du corbeau et de la mort est ancienne. Il y a l'idée que le corbeau non pas tue les êtres humains, mais qu'il aime beaucoup aller manger la chair des cadavres. Les auteurs médiévaux nous expliquent que son mets préféré, c'est la cervelle, et que pour accéder à la cervelle, il faut passer par les yeux. Donc le corbeau commence par crever les yeux, et puis comme cela, il peut aller chercher la cervelle de l'homme ou de la femme et s'en délecte. Donc il y a un rapport ancien entre le corbeau et la mort. D'ailleurs, il est psychopompe, donc il accompagne les défunts au royaume des morts, chez les peuples païens, comme le cheval et quelques autres animaux. Mais du point de vue symbolique, du point de vue iconographique, du point de vue artistique et poétique, c'est en effet le 19e siècle qui met le plus souvent en scène la mort et le corbeau associés par des textes ou par des images. Et curieusement, cette mise en scène qui tourne toujours d'ailleurs autour de la couleur noire, valorise plutôt le corbeau qu'elle ne lui nuit. Ce n'est pas le propre du premier mouvement romantique, fin 18e, début 19e siècle, qui est plutôt tourné vers la couleur bleue, mais du deuxième mouvement romantique, à partir des années 1820-30, tourné beaucoup vers la couleur noire.
On retrouve quelque part le corbeau des augures.
Si l'on veut, oui, le corbeau omniscient, le corbeau qui aide à comprendre l'au-delà, le corbeau qui informe les vivants sur ce qui se passe après la mort, qu'il connaît bien. Bref, il est démiurge, il est psychopompe, il est compagnon des poètes maudits, il accompagne les artistes qui cherchent à mettre en scène l'ineffable bonheur d'être triste, comme disent à la fois Hugo et Nerval. C'est un oiseau auquel le romantisme a voué une sorte de culte. Et l'emblème, bien sûr, c'est le poème célébrissime d'Edgar Allan Poe, The Raven, le corbeau en français, qui est un texte qui est paru en 1845. Donc 10 ans avant le soleil noir de Nerval, et qui est comme la figure emblématique du romantisme noir. Le texte qui est très difficile à traduire en français. Baudelaire s'y est essayé, Mallarmé également. Le texte est difficile à traduire parce qu'il y a beaucoup d'allitération interne dans les vers, et en anglais ça fait un effet très impressionnant, en français un peu moins bien sûr. Ça raconte l'histoire d'un d'un jeune homme, le poète narrateur, qui vient de perdre la femme qu'il aime et qui voit un jour entrer dans sa chambre un corbeau. Il y voit un signe quelconque, il l'interroge pour savoir d'où il vient et ce que sa présence signifie. Et le corbeau ne répond que par un seul mot, « nevermore » en anglais, « jamais plus ». Quelle que soit la question que pose le jeune homme, la réponse est « jamais plus ». Et ça devient tellement obsessionnel que le jeune homme comprend qu'il ne reverra jamais plus sa bien-aimée et que, glacé d'effroi, il meurt sur ces paroles, cette simple parole du corbeau qui est venu le visiter.
L'obsession, nous la retrouvons dans un film, c'est celui des oiseaux d'Alfred Hitchcock, où les corbeaux sont mis en scène d'une façon étonnante. Et l'une des ficelles hein, du réalisateur, c'est de ne pas donner de raison aux attaques des corbeaux. Ce film a beaucoup marqué.
Oui, moi-même, il m'a beaucoup marqué parce que quand je l'ai vu, c'était interdit aux moins de 13 ans. Je me souviens, le film est paru en 63. Moi, j'avais 15 ans, donc je pensais que ça allait bien résister à ce film d'épouvante. Eh bien, j'ai été terrifié, comme tout le monde. Ce sont des oiseaux qui attaquent mystérieusement sur la côte du Pacifique, en Californie, les humains dans une petite ville. Il y a des corbeaux, il y a aussi des goélands, des mouettes, mais surtout des corbeaux. Et aucune explication n'est donnée. Il y a quelques scènes absolument terrifiantes, notamment celle d'une sortie de jeunes enfants d'une école primaire, et les corbeaux qui les attaquent, c'est une des scènes les plus insoutenables de toute l'histoire du cinéma, même si aujourd'hui on voit mieux les trucages qu'en 1963. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que le film d'Hitchcock est tiré d'une nouvelle de Daphné du Maurier qui date de 1952, Birds, une nouvelle courte, mais qui est encore plus angoissante que le film. C'est le texte le plus angoissant que j'ai jamais lu dans ma vie, cette nouvelle de Daphné du Maurier, des oiseaux qui attaquent aussi sur la côte de la Cornouaille anglaise, sans aucune raison et sans qu'aucune explication ne soit donnée. C'est terrifiant.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les corbeaux prennent leur revanche parce que les ornithologues, les scientifiques mettent en avant leurs facultés extraordinaires, notamment au niveau cognitif. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on découvre sur le corbeau aujourd'hui ?
Oui, le corbeau prend une sorte de revanche, en ce sens que toutes les recherches conduites depuis une trentaine d'années sur ce que j'appellerais l'intelligence animale, c'est un terme de profane, bien sûr, les spécialistes utilisent des expressions plus complexes, mais disons sur les capacités cognitives des animaux, des corvidés, des corbeaux, font des comparaisons. Toutes les recherches soulignent que le premier de la classe, c'est lui. Pour un certain nombre d'expériences, de tests, il est au niveau des grands singes, notamment le chimpanzé. Et pour d'autres, ils devancent les grands singes. Et plus on multiplie ces tests et ces expériences, plus cela confirme qu'ils devancent tout le monde. Ce que des auteurs anciens disaient déjà. Pline dit déjà que le corbeau est le plus intelligent de tous les animaux, ce que confirment les enquêtes conduite depuis une génération à peu près, et ça va crescendo au point que ça fait presque peur. Jusqu'où va-t-on aller dans notre connaissance de l'intelligence du corbeau ? Alors, ça remet en cause tout ce que l'on pouvait croire sur les rapports entre la taille du cerveau et l'intelligence animale. C'est pas parce qu'on a un cerveau petit qu'on est peu intelligent, ou un gros cerveau qu'on est très intelligent. C'est un problème, là encore je prends des termes profanes, hein, puisque je suis historien, c'est un problème de densité de neurones au centimètre cube, si je puis dire, de cerveau. Plus les neurones sont concentrés et connectés entre elles, plus ce que j'appelle communément l'intelligence est à l'œuvre. Et chez le corbeau, cette densité et ce jeu de connexion est particulièrement remarquable. En outre, c'est un oiseau qui vit longtemps. parfois très longtemps. Les corbeaux de la Tour de Londres, qui sont choyés, dorlotés, etc., protégés, certains ont dépassé 80 ans. C'est beaucoup. Et alors, vivant longtemps, ils ont une aptitude à se souvenir et à emmagasiner savoir et mémoire plus que d'autres animaux. Et en outre, contrairement à ce que disent les bestiaires du Moyen-Âge, les parents s'occupent beaucoup des enfants. Les enfants vivent longtemps avec les parents et ceux-ci leur transmettent un certain nombre d'informations qui, comme ça, vont de génération en génération. Bref, le corbeau, dans l'état actuel de nos connaissances, est jugé par l'être humain, bien sûr, ce qui conduit à relativiser un peu tout, aux yeux de l'être humain, c'est aujourd'hui le plus intelligent de tous les animaux. Mais la haine du corbeau reste telle parfois que certains ornithologues refusent de l'admettre parce que c'est le corbeau, alors que toutes les expériences vont dans l'autre sens.
À votre avis, toutes ces découvertes n'ont donc pas eu encore tellement d'influence sur nos représentations du corbeau ?
Non, bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au lieu de revaloriser l'oiseau, elles ne font que le rendre de plus en plus inquiétant, parce que est-ce qu'il va arriver un jour où on va constater qu'il est plus intelligent que l'être humain ? Donc je délire un peu, mais la science-fiction, bien sûr, et avec son goût pour l'ésotérisme, s'est emparée de cet oiseau, de ses capacités cognitives, et c'est une des vedettes, bien sûr, d'histoires très sombres. Je suis peu amateur de ce type de littérature, mais je sais qu'il y a des bandes dessinées, des jeux vidéo qui naturellement mettent en scène des corbeaux voyants, super voyants, qui s'emparent du pouvoir, sont capables de connaître l'avenir, etc., etc. Bref, on reprend des idées qui existaient déjà depuis très très longtemps, mais on les revisite au goût du jour.
Eh bien, un grand merci Michel Pastoureau pour ce vol à travers les âges en compagnie du corbeau. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le corbeau, une histoire culturelle. C'est aux éditions du Seuil et vous aviez déjà publié un ouvrage dans la même collection sur le loup et un autre sur le taureau. À bientôt.
Merci, merci à tous. Thank you.